Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale, j'espère que vous allez bien ce soir, preview monumentale, et oui monumentale, pourquoi ? Car le premier monument de la saison est là. Non, l'Estrade Bianche n'était pas le sixième monument comme on nous l'a rabâché ces dernières semaines, et Milan-San Remo, ce sera bien le premier monument de la saison. En Italie également, une course incroyable, la première course de printemps, la Primavera, celle qu'on attend toutes et tous, et pour m'accompagner ce soir, il est là, il est plutôt d'habitude professeur de français, mais son italien ferait pâlir plus d'un LV2 italien européen au baccalauréat. C'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu?
Salut tout le monde. Salut, ouais. Ben, j'ai essayé de. Je me suis demandé si j'allais faire une petite introduction en italien. Et puis je me
ah, comme estate.
On allait pas se ridiculiser dès le début du podcast. Donc, non, ça va, super content. Ça y est, le premier monument de la saison. Et puis le retour du maillot arc-en-ciel hein, sur les courses. Je l'attends depuis longtemps en tant que fan de Mathieu Van Der Poel. Il sera là ce samedi. Donc, écoute. Je suis super content.
Le Van Der Dog est complètement délavé, c'est ça que tu nous dis, tu l'as tellement porté.
Voilà. À défaut de pouvoir mettre un maillot de champion du monde quand je vais rouler, ce serait pas très crédible, donc voilà.
Ok, top. Pour nous accompagner également, c'est Poppy Antonio. Comment vas-tu?
Salut à tous, ça va très bien. Moi non plus, je prendrai pas d'accent italien, même si j'ai essayé de me lancer dans la brèche là. Mais j'ai réussi à résister et je suis prêt pour le premier monument de la saison là, qui arrive ce week-end. Ça va être bien sympa.
Alors messieurs, ce soir pour la preview, on a décidé de changer un petit peu la manière dont on fait. Généralement les previews, on part sur les ultra favoris, les 3 étoiles, puis les 2 étoiles, les 1 étoile. Ce soir, on a essayé de faire un peu de cyclisme fiction. Les gars, j'ai 3 scénarios à vous proposer, ou 3 scénari, comme on dirait en italien. Et l'idée, c'est de voir un petit peu qui pourrait s'imposer en fonction de ces scénarios. Alors, on sait qu'il y a des coureurs, peu importe le scénario, il y a des chances qu'ils gagnent. Hein, voilà, quand ça vient de la Slovénie, par exemple, bon voilà, ça, il sera certainement à l'initiative de tous les scénarios que je vais vous proposer hein, d'ailleurs.
Sûrement.
mais l'idée, voilà, c'est de voir en fonction des scénarios s'il n'y a pas des coureurs qui pourraient émerger et puis voilà, faire un peu de cyclisme fiction en même temps. D'ailleurs, vous, dans les commentaires qui nous suivez, bah, n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des scénarios auxquels on n'a pas pensé. Enfin, on va pas pouvoir en faire 12 000, hein, on peut pas tout voir, donc on part sur 3. Mais voilà, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, ça peut être un peu fun. Et puis ce que vous pensez aussi de ces scénarios et des coureurs qu'on va mettre en avant. D'ailleurs, j'en profite, si vous nous découvrez, bah, n'hésitez pas à vous abonner, on est vraiment pas loin des 2000, on se rapproche jour après jour, on grappille comme ça. Donc voilà, c'est un peu la barrière qu'on s'est fixée avant Paris-Roubaix. On compte sur vous. Et puis pareil, laissez un like sur la vidéo. Vous connaissez tout ça. Allez nous suivre sur Instagram et Facebook pour voir les merveilleux articles écrits qui sont faits par Matt et Simon. Je crois que le point promo est terminé, messieurs. Avant d'attaquer les scénarios, je vous ai préparé un petit jeu et je suis parti sur un traditionnel Milan, San Remo ou les deux.
Aïe. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais...
Bah, il n'y a pas que du vélo, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que...
j'imagine bien.
Qu'en vélo, ça va être compliqué, mais alors le reste...
Il s'est passé plus de trucs à Milan qu'à San Remo, donc voilà, bref, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts?
Allez.
Prêt.
Petit point update sur ce Milan-San Remo ou les deux. L'idée, c'est uniquement une réponse chacun. Donc si vous avez foiré, si vous êtes allé trop vite ou machin au truc, vous pourrez pas faire les 3 réponses, au pire tant pis.
La pression.
Ouais, puisque j'ai déjà remarqué, on enchaîne l'un, l'autre, les deux, enfin bref. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais, très prêt.
J'ai déjà été ville départ du Giro. Le départ d'une étape du Giro, pardon, excusez-moi.
Les deux?
Et oui, c'est un point magnifique, Poppy. Alors Milan, on le sait, hein, puisque ça a été pendant très longtemps la ville duquel partait le Giro, de laquelle partait le Giro, pardon. Et puis, San Remo, on en a une qui est partie de San Remo, il me semble que c'est la 13e étape du Giro 2022. Donc voilà, en effet, les deux.
Oh, le flair.
Je suis situé à plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
San Remo.
Non.
Merde.
Allez Antoine, tu as la main, il faut clutcher mon grand.
Milan ?
Eh oui, tout à fait. San Remo est entre 15 et 17 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que Milan est entre, je crois, 120 et 150, ou 130 et 150.
Oui, c'est vrai que j'ai pas été très malin, ça arrive au bord de la mer, donc ouais.
Je me suis exactement dit ça.
Eh bien écoutez, il me semble que c'est une des premières fois que Antoine est devant de 2 points sur un quiz. Antoine, il va falloir rien lâcher, mon grand. Hein.
C'est maintenant. Il n'y a eu aucune question très... Enfin voilà, quoi, c'était un peu presque du hasard. Mais il y a une question de géographie, j'ai de la chance.
Troisième question. Un coureur du même nom que moi se trouvera dans le peloton samedi.
Milan.
Milan.
Et oui, Jonathan aïe, Milan. Aïe, aïe. Vous l'avez.
Jonathan Milan.
J'allais faire une blague avec lui, dans... mais c'est bon, tu m'as, du coup, t'as précédé la blague qui allait venir avec cette question.
Écoute, tu pourras toujours la faire, Titien, hein, franchement.
Oui, oui, oui.
Tu connais, on est
friands. Mais là pour rigoler, hein.
C'est ça, y a pas de souci. Titien qui revient à 2-1, et j'en profite, messieurs, pour vous dire qu'il reste deux questions.
Oh là.
Oh là là.
J'ai déjà vu Wout Van Aert lever les bras dans ma ville.
San Remo.
Eh oui, bravo monsieur. Wout van Aert n'a pas beaucoup couru en Italie, hein, par Milan San Remo. Bah si, il a fait des Tirreno ou autre, mais voilà, et tout à fait, tout à fait. Seulement San Remo. On est à deux partout et c'est
ah
parfait.
Là, oh là là.
Parce que c'est une question culture pour terminer, qui n'a rien à faire avec le vélo.
La question en or.
En faisant ça, je rêvais que vous soyez à 2-2 à ce moment-là pour que vraiment ça n'ait aucun sens. Est-ce que vous êtes prêts?
Prêt.
Vas-y.
Je suis réputé pour ma culture florale.
San Remo.
Eh oui, monsieur.
Let's go.
Le gong. Chaque année à San Remo, il y a un concours floral. Voilà. C'est un des premiers trucs qu'on voit sur Wikipédia. Donc, vous êtes au courant dorénavant. Et c'est Poppy qui emporte ce petit quiz. Bien joué, mon grand.
Bravo.
Ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude.
Ouais, bah voilà, c'est peut-être un début à partir de maintenant. T'as peut-être ouvert le compteur et tu vas être redoutable sur le reste de l'année.
Méfiez-vous, hein, méfiez-vous.
Messieurs, sans plus attendre, sans transition, on va passer à ce qui nous attend samedi. Alors Milan-San Remo, c'est quoi? C'est une course très longue, 288 km, une course où généralement il se passe pas grand-chose avant les 50 dernières bornes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer trois scénarios qui vont se décanter justement dans ces 50 derniers kilomètres. Alors, au début, j'ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose dans le Passo del Turchino, qui est positionné au milieu de la course, à 138 bornes, très exactement. Puis je me suis dit, bon, même s'il se passait un truc, Pogacar, ça lui ferait pas peur d'attaquer là, mais en vrai, c'est pas assez difficile. Derrière, il y a presque 100 bornes de plat encore. J'y crois pas. Je pense pas que ça puisse être vraiment un scénario viable. Alors oui, on peut imaginer les scénarios. Oui, vas-y.
Ouais, j'allais dire, pour moi, le Turchino, il y a un truc qui est assez viable quand même, c'est que la descente, Julien Alaphilippe qui se fracasse et qui abandonne la course, la côte.
Oh
pas
non,
si élevé
non.
Que ça, hein. C'est méchant, le tag, je sais, mais... je sens un truc comme ça venir, tu vois.
Trois courses d'un jour.
Pardon, du coup, désolé pour cet aparté, mais j'avais envie de la sortir.
Non, mais ça devrait aller normalement. Alors, le Turchino, on a dit un peu trop technique. Enfin, pas assez technique, justement. Derrière, on attaque les capots, le capot mêlé, le capot Chervo et le capot Berta. Attendez, j'ai un petit mini-moise, je vais lui dire bonne nuit. Je vous reprends de suite.
Pas de soucis,
les aléas du direct.
À lui.
C'est bien avec cette petite coupure. On est à 249 km de l'arrivée.
C'est bon, je suis là.
Ah,
alors, retour.
Le retour.
Le retour.
Oui, que voulez-vous, hein, c'est comme ça, à tout moment, quand on est directeur sportif, il faut manager l'équipe, hein, vous connaissez.
Voilà, t'as bien raison.
Alors, on a le capot mêlé, qui a son sommet à 236 bornes de l'arrivée. Le capot Chervo, qui a son sommet à 241 bornes de l'arrivée. Ça va être des petites bosses, mais ça va rien être de trop méchant. On est sur de l'ordre du 1,2 km entre 3,6 et 3,7%. Rien de trop méchant. Mais par contre, et c'est là que je vais vous proposer le premier scénario de la journée, le Capo Berta. Alors pourquoi le Capo Berta? Parce qu'on est sur un petit 1,7 km, c'est vrai, mais il est à 7%. Et peut-être que c'est assez pour envoyer une belle attaque, sachant que derrière, le bas de sa descente est à 52 km de l'arrivée, mais également à seulement 8 km du pied de la Cipressa, qui est la plus grosse bosse de Milan-San Remo, hein, on rappelle. La Cipressa, qui est quand même une bosse de 5,6 km, pardon, à 4% de moyenne, désolé, avec quelques passages à 9%, donc qui devrait plutôt avantager les grimpeurs. Et ensuite, on sait, il y a le fameux Poggio, avec 3,7 km à 3,7% de moyenne, avec un petit passage à 8%, juste avant l'arrivée. Alors, si ça part dans le Capo Berta, je vous le donne dans le mille, c'est un petit mec avec le maillot du AE qui va attaquer. Messieurs, qui vous voyez suivre à ce moment-là? Qui devient favori de la course? Qui peut aller lever les bras à San Remo sur ce scénario numéro 1? On part dans le Capo Berta, on arrive à résister jusqu'au début de la Cipressa, on recreuse dans la Cipressa, et puis après derrière, ça abandonne la poursuite, et le groupe qui est à l'avant se joue la victoire. Pas évident, hein.
Alors, comme t'as dit, parce que tu parlais d'un mec du AE, mais très sincèrement, j'ai du mal à voir Ce scénario, je pense, ça va être le moins viable pour moi de ce qu'on va étudier ce soir. Et s'il y a un petit mec du AE qui attaque, ce sera peut-être pas celui dont on s'attend, mais peut-être un mec qui va préparer le terrain, tu vois.
Okay.
Ou alors plusieurs petits mecs du AE, foutre une accélération monstre pour déjà étirer bien le peloton, faire bien bien mal pendant 1,5 km de montée, et puis ne pas s'arrêter. Enfin, en tout cas, voilà, je vois vraiment ce qu'a Poberta dans un scénario où la course se décante de loin pour. Déjà pour provoquer une première sélection et pour lancer un rythme endiablé pour préparer plutôt des grosses offensives sur la suite. Si effectivement t'as des Pogacar attaque là-dessus, je vois quand même pas mal de coureurs pouvoir lui embrayer le pas parce que c'est peut-être pas encore assez dur pour faire une énorme différence. Donc forcément ce sera les grands favoris de la course qui le suivront. Toujours est-il qu'ensuite, un mec qui attaque là, derrière, t'as quand même 8 km de plat qui sont vraiment bien plats. Il faut savoir résister ensuite pour atteindre derrière la Chipreza. Donc, est-ce que Pogacar portera son attaque dès le Capo Berta? Je sais pas. Toujours est-il que dans ce premier scénario-là, je suis pas sûr qu'il arrive à s'envoler et j'ai peur que malheureusement il soit suivi par 4-5 mecs. Ça s'en donne pas forcément parce que c'est encore parti de loin. Et finalement, je suis pas sûr qu'il y ait aussi beaucoup de coureurs qui aient l'intention de partir de loin avec Pogacar. Se mettre dans une course d'endurance de fond avec lui et je sais pas si c'est la meilleure solution en tout cas moi je le vois pas s'envoler tout seul à ce moment-là de la course, mais par contre je vois bien 3-4 mecs de cette équipe UAE monter au sprint ce Capo Berta et Pogacar dans la roue, faire exploser totalement le peloton, ne pas s'arrêter ensuite au bas de la descente pour aller jusqu'à la Chipreza qui sera sûrement un des prochains scénarios que t'évoqueras. Je sais pas ce que t'en penses, Poppy, par rapport à ce premier scénario d'un Capo Berta monté à fond.
Ouais, ça peut être un bon scénario. En tout cas, la stratégie fait rêver pour voir une victoire un peu plus collective de la part de UAE, notamment en voulant mettre Pogacar sur orbite. Il y a aussi peut-être potentiellement cette idée de voir aller un petit groupe de 4-5 mecs essayer de jouer les troubles faits dans cette course. Il suffit que tu aies un gars un petit peu... qui peut peut-être pas mal rouler. Je pense à des types comme Cosnefroy, tu vois, qui pourrait peut-être essayer d'aller faire ce petit pétard au Capo Berta, en sachant que derrière t'as envie d'éviter certains scénarios, et je pense notamment le plus connu, et pourquoi pas du coup avoir un petit groupe de 4-5 aussi qui essaye de justement faire sauter un petit peu les choses, essayer de dynamiter un peu cette course. En tout cas, moi, je vois pas Pogacar non plus attaquer dans ce moment-là. Il sera loin de l'arrivée, il sera ultra surveillé sur cette course. Donc, forcément, après l'Estrade Bianche, t'as pas envie de le laisser partir à ce moment-là. Et je pense que lui se rend compte que c'est peut-être pas assez difficile pour partir non plus. Donc, je pense que, comme tu as dit, soit une grosse montée pour préparer le terrain, ou moi, je vois bien aussi un petit groupe d'échappés qui essaye de jouer le tout pour le tout à 40 bornes de l'arrivée.
Très bien, passons au scénario numéro 2. Comme vous l'avez noté, en effet, ça va rouler très très vite. On va vouloir être placé au pied de la Chipreza. Et à ce moment-là, pareil, les hommes UAE ont bien roulé, tout est bien étiré et Pogacar attaque dans la Chipreza, peut-être la montée qui lui est la plus favorable sur l'ensemble du parcours. Qui est capable de le suivre? Est-ce que ça va au bout?
Écoute, je pense qu'on en rêve tous de ce scénario. Je pense qu'il est plus plausible que le premier. Voilà, vraiment, pour moi, les trois capis, et surtout le Capo Berta, comme tu disais, qui est bien difficile et vont servir à... Si en tout cas, Pogacar planifie d'attaquer dans la Chipreza, ce qui serait incroyable pour le spectacle, il va falloir durcir à mort dans les... Voilà, et donner... Enfin, voilà, il va falloir jouer all-in là-dessus et sacrifier toute son équipe pour faire exploser le peloton. En tout cas, mettre tout le monde déjà dans le rouge dans les capis précédents pour que tout le monde arrive déjà cramé au pied de la Chipreza et attaquer rapidement dans la Chipreza pour creuser des écarts. En tout cas, si ce scénario de course pour Pogacar, il doit marcher, c'est dans ce sens-là que je vois, parce que si tout le monde arrive frais au pied de la Chipreza, même si Pogacar passe avec, je sais pas, 30 secondes d'avance au sommet, si les équipes ont encore 4-5 équipiers, mine de rien, la transition est longue. Donc pour moi, ce scénario, et j'espère qu'il arrivera, pourquoi pas, vu ce que Pogacar a montré, enfin en tout cas, s'il y a bien un coureur qui peut le faire, c'est lui, et il va falloir durcir à mort. Et ensuite, effectivement, pour moi, si Pogacar attaque dans la Chipreza, il y aura... Peanuts, il y aura personne dans la roue. Enfin, il y a qu'à voir ce qu'il a fait sur les Trade Bianche. Il était une classe au-dessus de tout le monde. Même si la Chipreza, c'est pas non plus une ascension difficile. C'est la plus difficile de Milan-San Remo. Puis Pogacar, on a vu qu'aujourd'hui, voilà, il En fait, il y a personne qui peut le suivre dès que il lance la course de loin sur une course d'endurance, etc. Il y en a peut-être un, mais je pense que le dernier scénario lui sera plus favorable. Donc, c'est un scénario que j'ai envie de voir. En tout cas, j'y crois. J'y crois parce que Pogacar, ça fait deux ans, qu'il tente des choses dans Milan-San Remo. Il y a deux ans, il avait fait rouler son équipe à fond dans la Cipressa, mais il avait plus aucun équipier pour faire tempo dans Poggio. Il a mis 2-3 attaques, mais du coup, c'était pas assez. L'an dernier, il a préservé ses équipiers dans la Cipressa pour attaquer dans le Poggio, mais le Poggio, mine de rien, même si c'est dur, c'est peut-être pas assez dur pour lâcher des mecs comme Mathieu Van Der Poel qui ont un punch imparable. Donc, peut-être que cette année, voilà. Et puis, tu vois, Pogacar, l'année dernière, il a attaqué sur le Tour des Flandres, dans la première ascension du Coirmont. Ça l'a pas empêché d'attaquer dans la dernière ascension du Coirmont et lâcher tout le monde. Donc, j'y crois à ce scénario pour cette année. Durcissement à mort dans les capilles. Pogacar qui part dans la Cipressa. Et pour moi, ensuite, si vraiment il y a eu cette course d'usure et qu'il s'envole dès les premières pentes, il est possible pour moi que derrière ça s'organise pas assez et qu'il puisse aller au bout et ça donnerait une édition de Milan-San Remo légendaire. Donc, si ce scénario arrive, Pogacar, pour moi, il sera imbattable.
Et donc, attends, juste avant qu'Antoine, tu donnes ton avis, il partirait vraiment solo, personne capable de le suivre, et même lui, il se dirait, je m'embarrasse de personne, même pour rouler sur le plat derrière, quoi.
Ça marche pour moi si uniquement son équipe elle a essoré dans les capis avant. Comme j'ai dit, si tout le monde arriverait au pied de la Cipressa, je trouve que c'est pas assez dur pour une garantie, même s'il arrive en haut tout seul au sommet, de tenir sur les quand même 12-15 bornes de plat qu'il y a après. Donc, il va falloir essorer à mort tout le monde, que les équipiers sacrifient et que vraiment ils partent du premier kilomètre de la Cipressa. Donc dans ce scénario-là, c'est le scénario que j'ai envie de voir, donc, j'y crois à fond et voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine.
Ouais, je suis d'accord avec toi à 100%. Je pense que Pogacar, on l'a vu courir et on sait comment il court. C'est un coureur qui aime beaucoup les belles victoires. Il joue pour ça aussi. Je pense qu'il a envie de marquer le coup un peu sur Milan-San Remo, gagner ce quatrième monument et puis marquer un petit peu encore plus, un peu plus l'histoire. Je me suis un peu emmêlé. Mais je vois bien ce scénario-là pour cette raison-là. Et aussi, une autre raison, c'est que Pogacar, l'année dernière, il se fait avoir parce que il donne tout dans le Poggio, il met le tempo, mais malheureusement le Poggio, tu l'as dit, Titien, c'est pas assez pentu pour que tu puisses faire une différence, c'est pas assez difficile. Et il a été suivi par des gars comme voilà Van Der Poel, Van Aert et puis Ganna. Et derrière, au sprint, après avoir tout donné, t'es pas le meilleur. Et malheureusement, tu te fais sucrer la deuxième place devant les autres. Mais je pense que tu as envie d'éviter ce scénario-là, en sachant que le tableau des sprinters sur cette édition, il est plutôt intéressant, et qu'on a des mecs qui, voilà, potentiellement peuvent suivre un rythme dans le Poggio et derrière régler le sprint. Je pense que tu as envie de faire le coup dans la Cipressa, c'était Pogacar, pour ces deux raisons-là. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer, en tout cas, c'est ce que lui veut. Et on sait, Pogacar, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait, si les jambes peuvent. Et même s'il a pas les jambes, il l'essayera quand même. Mais voilà, je pense que ce scénario, comme Tizian l'a expliqué, avec l'attaque, l'accélération dans le capot Berta, par exemple, de son équipe, et puis ensuite Pogacar en roue libre dans la Cipressa, je pense que la Cipressa, c'est quand même un peu plus long. Voilà, je pense que si Pogacar il a le jus, ça va être très très dur de le suivre. Il y a un nom potentiellement ou deux qui peuvent le suivre, mais derrière, ça sera trop compliqué. Et après, derrière, le plat, on sait, Pogacar, c'est un énorme rouleur, on le sait déjà trop bien. Donc, après, il va falloir aussi s'entendre dans le peloton pour essayer de le suivre. Mais comment tu t'entends? Parce que tu as des mecs qui peuvent... Voilà, tu peux essayer de rouler avec Van Der Poel, mais Van Der Poel, tu sais qu'il peut te sauter dans le Poggio. Tu peux essayer de rouler avec Pedersen, mais tu sais que Pedersen, il peut aller te régler le sprint à San Remo. Donc, en vrai, c'est très compliqué de s'entendre, je pense, derrière. Donc, moi, je trouve que c'est un scénario ultra intéressant et très, 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 très probable dans ce Milan-San Remo.
Très bien, messieurs. On va passer au deuxième scénario, qui est en fait un scénario à deux têtes. Première tête, ça a pas tant attaqué avant. Les plus gros punchers ont gardé du punch et arrivent à s'isoler, à un petit groupe, un peu comme on l'a vu l'an passé, dans le Poggio. Si c'est le cas, quel potentiel favori vous voyez aujourd'hui en capacité de s'extirper dans le Poggio sur un petit groupe de 5-6? Voilà, s'il y a 6 mecs, alors déjà, est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir 6 mecs où il n'y en aura que 1 ou 2 au sommet du Poggio? Et si jamais il y a 6 mecs, il y a qui dans les 6 mecs?
Alors, en fait, déjà, je sais, en fait, pour moi, il y a une grosse équation et qui va aussi conditionner, comme on a dit, la course de Tadej Pogacar. Et cette équation, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, il est en reprise. Mathieu Van Der Poel, parfois en course de reprise, il n'a pas été top, mine de rien. Il revenait d'une blessure il y a 2 ans sur Milan-San Remo. Il n'avait pas eu tout sa forme, il finit 3e, il était très fort dans le Poggio. Enfin, sur cette course, sur une bosse comme le Poggio, Mathieu Van Der Poel prime, il n'y a rien à faire contre lui. Et si je vois un mec, si on a Mathieu Van Der Poel prime et que le peloton est regroupé au pied du Poggio, moi je vois un bis repetita de l'année dernière. Enfin, il a un kick sur 200-300 mètres qui est, enfin voilà, il sera difficile à suivre. Et peut-être que le seul qui pourra le suivre, c'est Tadej Pogacar. Donc, moi je vois, en tout cas, si ça arrive groupé au pied du Poggio et si on a Pogacar et Van Der Poel au top niveau, je vois les deux s'extirper et personne n'est capable de les reprendre. Et puis derrière, on sait comment ça va se passer. À moins que vraiment, derrière, ça passe à 1 ou 2 secondes derrière dans la descente. Les écarts, ils vont faire un peu statu quo. Au pied de la descente, on est à 2 kilomètres de l'arrivée et les deux iront jouer la victoire. Donc, mais sinon, des mecs après qui vont suivre, pour moi, un Mats Pedersen, forcément en grande condition depuis le début de l'année. Tu vois, Filippo Ganna, la dernière, était très fort. Je sais pas s'il est au même niveau que cette année, mais alors là, c'est un gros pari parce que c'est un sprinter. Mais tu vois, je me demande si un Jonathan Milan, ça pourrait pas être le Filippo Ganna de cette année, par exemple.
J'y crois beaucoup, moi.
Carrément. Et, tu vois, le mec, tu vois, vu sa puissance, Ganna, s'il a réussi à passer la bosse avec les tout meilleurs l'an dernier, vu la forme qu'il a depuis le début de l'année, il pourrait être aussi dans ce groupe. Et puis après, des mecs comme... C'est un Benoît Cosnefroy qui a fait une excellente Strade Bianchi que j'entendais pas à ce niveau. Sur son punch, ouais, ça peut aussi le faire. Enfin voilà, il y a pas mal de mecs comme ça. Et puis moi, surtout, un mec que je vois gros comme une maison sur cette course, il est toujours, toujours excellent. C'est un mec comme Mohoric. Et puis en plus, même Mohoric, s'il bascule à 2-3 secondes au sommet de la descente, il reviendra. Donc, voilà, c'est un peu ces mecs-là que moi, je vois basculer. Mais tout de même, si c'est une course de puncher dans le Poggio... Et Pogacar, Van Der Poel, à mon avis, s'ils donnent tout là-dedans, ils seront durs à suivre.
Moi, je suis d'accord. Ça, en plus, il y a vraiment ce côté, genre, c'est les deux gars à battre de la course. Et forcément, si ça attaque à leur niveau prime, franchement, personne ne peut y aller. Hein. Personne ne peut suivre et prendre la roue. Du coup, derrière, ça se battra pour la 3e place. Mais les noms que tu as cités, Titien, je suis assez d'accord. En tout cas, je vois pas Ganna comme l'année dernière, malheureusement. Il est trop... Il est... Tu vois, l'année dernière, on se disait, oh ouais, Filippo Ganna, en fait, pourquoi pas, tu vois, il peut peut-être se réinventer et tout. Mais pour moi, cette année, il n'est pas du tout dans cette forme-là. Stefan Kung, non plus, malheureusement.
Oh, il a pas de punch, Lynn.
Ouais, il a pas de punch, mais tu vois, il fait quoi? Il fait 3e Tour des Flandres il y a 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Ça a un bon rouleur aussi qui pourrait suivre dans la montée. Mais bon, franchement, non, ça va être Pogacar Van Der Poel. Normalement, ça devrait être Pogacar Van Der Poel, à voir si Van Der Poel est en forme. Aussi, à voir les scénarios qui se passent. Mais si il y a deux personnes dans le Poggio qui doivent sortir, c'est eux deux. Après, moi, Mats Pedersen, je le sens bien aussi. Il est capable d'y aller. Qu'est-ce qu'on attend aussi d'un mec comme Maxime Van Gils? Comment ça va se passer pour lui? Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc, franchement, on est jamais trop à l'abri de tout ça. Et puis, je sais pas, tu vois, Christophe Laporte, je le sens bien. Peut-être plus qu'Olaf Koy, bizarrement. Moi, je trouve qu'il a été assez bon ce début de saison. Il a ce moment de champion d'Europe sur les épaules en plus. Mais tu vois, pendant les Strade Bianche, je l'ai trouvé loin d'être ridicule, Christophe Laporte. Donc, non, franchement, vraiment bien. Puis, il y a des. Après, il y a pas mal de gros sprinters aussi. Mais bon, il y a des sprinters, je les vois pas passer. Tu vois, genre Alex Christophe, pour moi, ça passe pas. Enfin. Caleb Ewan non plus, donc voilà, derrière, c'est un petit peu plus fouillé. Et puis je suis très d'accord avec la carte Mohoric, qui en plus, si ça bascule en haut dans un groupe de 5 ou 6 et qu'il est dedans, s'il peut attaquer dans la descente, on connaît ses qualités. Donc franchement, ça va être un gros morceau s'il est dans un bon jour, Mohoric.
Très bien, deuxième scénario, il y a des équipiers par exemple, on imagine la Visma qui va rouler très fort, on sait que Coy, on l'a vu, passait pas trop mal les bosses, qu'il est en super forme, ça visse comme jamais, finalement on se rend compte que ça a du mal à sortir comme ça a déjà pu être le cas parce que peut-être que des efforts ont été faits avant et que ça a pas fonctionné, peut-être que juste les trains vont être trop élevés ou alors qu'on va avoir des surprises, hein. L'année dernière on a eu la surprise Ganna qui était capable de s'accrocher dans la roue de Pogacar, Van Aert et Van Der Poel, on n'est pas à l'abri quand même que voilà, même des mecs comme Philipsen potentiellement, si devant des mecs comme Van Der Poel ou Pogacar n'arrivent pas à décrocher, s'accrochent. Est-ce que vous voyez par exemple un Vanderpool se muer en équipier pour Philipsen, ou jamais de la vie, par exemple s'ils passent les deux au sommet dans le même groupe. Est-ce que vous voyez des mecs comme Laporte, tu as cité Poppy comme un potentiel vainqueur et capable de suivre, se muer en équipier aussi pour un Olaf Koy? Et si oui, quel sprinter vous verriez du coup passer cette bosse et devenir potentiel favori si on a un groupe voilà, de 10-15 coureurs composé de certains sprinters pour accompagner les meilleurs punchers dans ce Poggio?
Alors, ben déjà, de manière très transparente, j'y crois absolument pas. En fait, je pense que cette époque-là, pour moi, elle est un peu finie. En fait, ouais. Aujourd'hui, on remarque que, enfin, sur les monuments, en fait, il y a 4-5 mecs qui sont hors d'atteinte. Enfin, il y a qu'à voir l'année dernière. Hein. Enfin, Milan-San Remo, ça a toujours été une course serrée. Il n'y a jamais un mec qui est arrivé tout seul. Enfin, Van Der Poel, l'année dernière, il arrive avec 15 secondes d'avance sur les poursuivants, qui avaient eux-mêmes près de 15 secondes d'avance sur le petit peloton de poursuivants. Donc, enfin, il y a tellement une différence de niveau entre ces 4-5 mecs et le reste du peloton que oui, il peut y avoir pour moi un mec comme Ganna l'an dernier, ben qui pourrait avoir ce rôle de Ganna l'an dernier et qui pourrait arriver à suivre, mais il y aura pas tout un, enfin, je vois jamais Jasper Philipsen, en fait pour moi des mecs comme ça, des mecs comme Koy Philipsen, ils peuvent bénéficier d'un fait que parmi les 2-3 grands favoris, il y en a aucun qui se départage dans le Poggio et que derrière ça revienne. Mais j'ai déjà du mal à imaginer ça. Je les vois pas du tout s'accrocher dans le Poggio. Donc moi, ce scénario plutôt des sprinteurs qui passent, il est les mecs qui passent à 15 secondes et puis devant ça s'entend pas. Mais je commence vraiment à avoir du mal à y croire à Milan-San Remo, à ce scénario même d'un groupe de 15-20 coureurs qui arriverait avec encore les top sprinteurs. Donc oui, et dans ces cas-là, forcément, s'il y a 800 mètres de la ligne, il y a 15 mecs devant, qu'il y a Philipsen dans le groupe. Évidemment, pour moi, Mathieu Van Der Poel, il roulera pour Jasper Philipsen. Il a déjà gagné Milan-San Remo. Il a quand même ses chances, mais très peu de chances au sprint face à, je sais pas, des Pedersen ou des Milan, etc. Il a un des 2-3 meilleurs sprinteurs du monde dans son équipe. Il se muera en équipier. Et pour moi, parmi ces sprinteurs qui peuvent passer et passer pas trop loin et avoir cette chance de regroupement dans le dernier kilomètre et se jouer la victoire, c'est des Jonathan Milan, c'est des Mats Pedersen, Olaf Koy et Jasper Philipsen. C'est ces quatre-là. Les autres, à mon avis, vu leur niveau, ils ont aucune chance. Donc voilà, et puis on va pas rouler pour Philipsen parce qu'il y a Van Der Poel dans l'équipe et à mon avis ce sera tout pour Mathieu Van Der Poel. Comment vont se comporter les deux treks, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, si j'en reviens à ton scénario que j'ai du mal à appréhender, malgré tout s'il arrive, ce qui reste une possibilité, si t'as 10-15 mecs, à mon avis, tu vois un Jonathan Milan, alors... Il m'a vraiment impressionné en fait hein, sur Tirreno. Alors certes, il a aucune référence aujourd'hui sur des monuments, mais le mec, il tape quand même Philipsen deux fois au sprint. Il m'a l'air d'avoir une puissance quand il est lancé sur un sprint lancé de loin. Il a pris vraiment une autre dimension là depuis un an et demi, Jonathan Milan. Donc si on va sur ce scénario-là, pour moi, je mettrais bien cette petite pièce sur Milan qui viendrait encore frustrer Philipsen et montrer que voilà, c'est devenu un crack de chez crack du peloton. Donc voilà, sur le scénario, victoire au sprint, Jonathan Milan, et puis juste effectivement, moi, Christophe Laporte, j'ai du mal à le voir dans un scénario où il serait assez fort pour mettre loin tous ses sprinters et à la fois arriver à accrocher devant. Donc je le vois plus sur un truc où effectivement, il y a un groupe de 10-15 qui se regroupe à la flamme rouge. Et peut-être qu'il y a Olaf Koy dans ce groupe et lui, il profite de ce marquage pour sortir et gagner en solitaire. Ça, c'est peut-être le scénario le plus viable pour une victoire de Christophe Laporte. En tout cas, voilà ce que j'imagine. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Poppy.
Ouais, bah, t'as un peu résumé le gros du truc. Moi, je dans la Lidl Trek, tu vois, comment tu gères une arrivée au sprint si t'as et Pedersen et Milan qui sont là? Je sais pas trop, tu vois, est-ce que les deux se font le sprint, sachant que Pedersen arrivera, enfin, sera sûrement le leader de la course. Mais est-ce qu'il y a une règle qui va dire que bah, si Milan passe la bosse, c'est lui qui devient le leader de la course? Je sais pas trop comment ça va se gérer, ça, en interne. Et puis derrière, bah, évidemment, la carte Philipsen, elle est pas oubliée. Si Philipsen passe la bosse avec Van Der Poel, Van Der Poel fera, je pense, bien évidemment, le travail d'équipier. Comme Philipsen avait pu le faire auparavant. Donc voilà, voilà un petit peu les trois gros noms qui se dégagent. Olaf Koy, je sais pas, je le trouve assez fort, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va manquer quelque chose au bout de 300 mètres de course. Soit je me dis, il va y avoir un loupé, mais un manque peut-être d'énergie sur d'autres gars. Voilà, j'ai Olaf Koy, il fait un bon début de saison lui aussi, hein, il a engrangé les victoires. Donc il est comme il est au même stade que Jonathan Milan, donc franchement ça peut jouer là-dessus. Mais voilà, Olaf Koy, j'ai un peu plus du mal. Alors après, il me fera sûrement douter. Mais voilà, si je devrais croire à une carte, je dirais ouais, bah je dirais l'un des trois. Et j'ai plus envie de dire aussi Jonathan Milan. J'ai plus envie d'y croire pour Jonathan Milan. Du fait que pour moi, si Pedersen et Milan passent la bosse ensemble, Pedersen fera le travail pour Milan et pas l'inverse, en sachant que, enfin, en me disant dans ma tête que le scénario de la course et que les consignes de course de la part de la Lidl Trek, ça soit Pedersen est leader jusqu'au podio, et si Milan est encore là dans le podio, c'est Milan qui devient leader pour aller jouer le sprint. Mais sinon, ouais, ce sera Milan pour moi ou le Pedersen.
Tu vois, moi, ça m'inquiète un peu. Je veux bien ton avis aussi, Titien, parce que pour moi, ce serait logique aussi que Milan devienne leader et soit le sprinter numéro 1 si jamais ça arrive au sprint et que les deux sont dans le groupe. Mais j'ai tellement de mal à voir Pedersen se transformer en poisson pilote, notamment parce que bah il a l'ancienneté, c'est son équipe, hein, on va pas se mentir. Et aussi même au niveau des comportements ou autres, enfin Pedersen, ça fait un moment qu'il est là, il n'a pas eu vraiment de concurrence en tant que coéquipier au sprint sur les dernières années, c'était vraiment son créneau à lui. Et là, voir Milan arriver dès la première année comme ça, et même si pour moi ce serait en effet la carte numéro 1 à jouer, et je pense que ce serait une grossière erreur que de faire l'inverse, j'imagine bien un monde où ça arrive groupé, où Milan se mue en équipier pour Pedersen, et du coup ils vont pas la chercher parce que en fait Philipsen est plus rapide que Pedersen, ou enfin voilà quoi, s'il y a un autre sprinter, ou même des mecs, je sais pas, comme Guirmay, ou même un Van der Poel, quoi, qui est capable d'aller battre au sprint un Pedersen qu'on a trop plein les jambes et qui du coup est pas capable d'aller chercher le truc. Quoi, et voir, je sais pas, même un Milan finir quatrième ou troisième derrière parce que c'était bien le meilleur gars sur l'arrivée. Donc moi, ça m'inquiète un peu cette gestion chez la Trek, et je pense que ça va plus être une faiblesse qu'une force. Des fois, on a un double leader et on se dit, ah bah là, ça va pouvoir permettre de faire des trucs, on s'en fiche qui gagne, ça va être génial et tout. Et bah, franchement, chez la Trek, ça m'inquiète un peu.
Bah, pour moi, ce serait une très grosse erreur de mettre Milan qui a battu quand même Philipsen, qui est quand même depuis un an le meilleur sprinter du monde, pour rouler pour Pedersen, alors que Pedersen, d'accord, il se fait taper deux fois par Olaf Koy, surtout sur des arrivées difficiles sur Paris-Nice. Donc, sur un sprint en bosse, ok, Pedersen, il est hyper puissant, mais sur un sprint plat, il y a pas, enfin, pour moi, il y a pas beaucoup de monde où, enfin, je vois pas un monde où Pedersen, il vient taper des Philipsen ou Olaf Koy, enfin, il risque d'être battu, alors que Pedersen, c'est un mec pourtant ultra puissant et qui pourrait faire un super poisson pilote, parce que si le mec, il prend le manche à fond à 400 mètres de la ligne, il dépose Milan à 150 mètres et derrière, avec la puissance de l'italien, ça peut aller au bout. Donc, mais je sais pas, après, je sais pas quelles seront les consignes de l'équipe, toujours est-il que, je pense que Mats Pedersen, c'est le leader numéro un quand même de la Trek. Et Jonathan Milan, son rôle, en fait, c'est vois jusqu'où tu peux aller, vois si tu peux passer le podio, vois où t'en es en bas du podio, et puis ensuite, si t'es là, dans le groupe des favoris en bas du podio, comme a dit Antoine, on se mettra pour toi. Mais vu les dernières éditions de Milan-San Remo, celui qui sera protégé pour moi en priorité, c'est Pedersen, parce que mine de rien, Pedersen, voilà, c'est un coureur de classique et il donne quand même plus de garanties que Milan déjà à tenir 300 km de course et à passer le podio. Donc on verra, je sais pas, effectivement ça fait peur, mais jamais pour moi Mats Pedersen l'année dernière à l'arrivée des championnats du monde, il se fait quand même taper par, alors c'était, enfin voilà, c'était une course difficile, mais il se fait taper par Pogacar au sprint. Sur Milan-San Remo l'année dernière dans le groupe des poursuivants, il se fait taper par Kra Andersen. Donc, non, c'est pas du tout une assurance face à un Olaf Koy, à mon avis, qui passe très bien les bosses et qui pourrait très bien passer ce podio également. Donc moi, j'espère qu'en tout cas ils sauront être intelligents et se dire bon bah voilà, ça se joue au sprint et Milan, t'es encore là, je vais lancer pour toi.
Messieurs, on va rentrer dans la dernière partie de notre émission, la partie suivante, qui est, dites-moi du coup, selon vous, quel est le scénario qui a le plus de chances d'arriver au bout, et du coup quels sont vos favoris par rapport à ce scénario là
bah, on en a déjà parlé un petit peu, mais le scénario où Pogacar attaque dans la Chipressa après un gros travail de son équipe, pour moi c'est le scénario le plus probable. En tout cas, en partant du principe que Pogacar ait envie de gagner, mais il aura envie de gagner, donc voilà.
Oui,
pour moi,
pense.
C'est ouais, clairement, il le veut ce monument, comme c'est pour après s'aligner sur Paris-Roubaix l'année suivante. Mais non, pour moi, clairement, ce scénario de la Chipressa, enfin l'attaque de Pogacar dans la Chipressa, il est plus que probable. Il va falloir clairement s'en méfier. La course, elle s'accélérera ici. Enfin, franchement, si Pogacar va gagner, ce sera ici. Mais ouais, pour moi, c'est lui le favori. Bizarrement, je vois pas. En fait, je vois pas Van Der Poel arriver comme l'année dernière non plus. où je, enfin tu vois là, je me dis pas ouais Van Der Poel, bah il va être là, il va allumer la course et ça va se finir assez rapidement. Je le vois plus en mode bah si jamais il voit que ça peut pas, bah tant pis, c'est pas grave. Il se dira qu'il a déjà gagné peut-être Milan-San Remo et qu'il prépare aussi d'autres courses cette saison. Donc je sais pas, Van Der Poel, je le vois pas arriver avec cette grosse envie de gagner. Pour moi, il gagnera s'il est vraiment le plus fort et que Pogacar a un jour sans. Mais sinon, j'ai du mal à voir Van Der Poel gagner. Donc pour moi, Pogacar, Cipressa, ça va faire mouche.
Ouais, je vais pas dire pareil qu'Antoine, du coup, moi, je vais prendre le palier inverse. Je vais dire plutôt que la Cipressa, l'attaque de loin dans la Cipressa, ça reste un mythe qu'on a envie de voir chaque année, mais ça roule tellement vite que à mon avis, ça peut rester un mythe. Et j'ai peur que Milan-San Remo, ce soit une course finalement, entre guillemets, hein, parce que c'est pas du tout facile, les coureurs, ils arrivent morts, mais que ce soit une course trop facile pour Tadej Pogacar et que malheureusement, il n'y a pas assez de difficultés pour qu'il puisse donner le plein potentiel de ce qu'il sait faire. Donc, je pense que ça arrive à arriver groupé au pied du podio. Je pense que Pogacar va attaquer, que je pense que Van Der Poel va lui mettre une cacahuète derrière. Il y a moyen quand même qu'il arrive à s'accrocher, que les deux arrivent ensemble, mais dans tous les cas, je vais parier sur une victoire de Mathieu Van Der Poel aussi parce que je pense que de plus en plus, les courses ont un niveau tellement élevé qu'il faut arriver le plus frais possible sur ces courses. On le voit sur les derniers Milan-San Remo, l'année dernière, hein, Mathieu Van Der Poel, il avait fait aucun effort sur Tirreno, il avait fait en guise d'entraînement. On avait vu ceux qui s'étaient écharpés, ils avaient moins vécu que lui sur ce Tirreno, enfin sur ce Milan-San Remo, et lui, il avait cette fraîcheur qu'il lui fallait. Cette année, il a fait un bon bloc d'entraînement, il a pas fait de course avant. Il va, mine de rien, je pense, arriver assez frais. Ça peut jouer aussi. Donc, vu les dernières années sur Milan-San Remo, je pense que ça se jouera dans le podio. Et du coup, je mise sur la cacahuète de Van Der Poel et puis une victoire au sprint ensuite face à Pogacar, qui aurait été le seul à pouvoir le suivre.
Très bien. Maintenant, donnez-moi potentiellement un coureur de deuxième rideau et un scénario dans lequel vous le voyez aller s'imposer.
Toi, tu donnes pas ton avis.
Si, je peux, hein, je peux. J'attendais de savoir si ça nous intéressait.
Non, mais vas-y, bien sûr que ça nous intéresse, parce que tu nous mets dans la sauce.
Écoutez, les gars, je vois bien.
Voyons ce que t'imagines.
Écoute, je vois bien ce scénario suivant. Pogacar qui durcit très tôt, qui attaque dans la Cipressa, qui arrive pas à faire assez de dégâts, qui en remet une dans le Poggio, mais du coup, il est un peu fatigué. Van Der Poel arrive à le suivre, et je vois bien plusieurs gars capables de le suivre. Et moi, je vais aller sur ce scénario que t'as donné, Titien, mais parce que c'est celui auquel je crois depuis le début. Je vois bien 4-5 gars passer, et dans ces 4-5 gars, Milan. Alors, je fais un peu un all-in, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de garanties sur les courses très longues de Milan. On regardait s'il pouvait être bon sur les Flandriennes, etc., etc. Mais je sais pas, je le sens super fort. J'ai l'impression qu'il fait que progresser. J'ai l'impression que franchement, au niveau de sa puissance et autres, monter le Poggio tout en puissance, s'accrocher comme jamais et tout, c'est faisable pour lui. Dans ce groupe-là, je vois bien aussi potentiellement un Moric qui en effet pourrait nous refaire le coup de la descente. Il l'a fait cette année. On sait qu'à tout moment, alors, Van Der Poel, très bon descendeur, mais est-ce que Van Der Poel sera au top? Moi, je vais partir sur le principe qu'on n'aura pas Prime Van Der Poel, là. On aura un Van Der Poel, on l'avait vu un peu en difficulté sur les Strade Bianche l'année dernière, sur sa course de reprise. Alors là, c'est pas les Strade Bianche. Il y a 2 ans, il avait été bon, mais pas assez pour aller s'imposer. Et donc là, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas un Van Der Poel un peu en dessous? Et voilà, il passe à 5-6, là, dans un groupe dans lequel je vois bien, allez, Pogacar, Van Der Poel, Milan, Moric, une petite surprise, genre un petit Van Gils, et voilà, allez, peut-être 2 petites surprises. Allez, un Van Gils, un Cosnefroid. Voilà, ou un Pitcock, tiens. Voilà, allez, il passe à 6-7, comme ça. Et puis derrière, ça se regarde, ça attaque, ça revient, machin, tout ça, puis Milan va régler tout ce petit monde au sprint. Ou alors, deuxième scénario, Moric nous fait le coup de la descente, ou un Pitcock, Moric ou Pitcock nous font le coup de la descente, voilà. J'ai l'impression, moi aussi, que mine de rien, les montées sont pas si dur entre guillemets que ça pour que Pogacar puisse vraiment fumer tout le monde. Alors après, ça se trouve, il va mettre tout le monde d'accord dans la Cipressa, il va gagner avec 1 minute 30 d'avance, puis on sera là, bon, bah incroyable, hein, Pogacar. Mais voilà, mais je pense qu'il va être méga surveillé, que là, à l'inverse des Strade Bianche, où tu peux vraiment t'isoler et tout, là, il y a quand même des sacrées équipes qui sont faites pour ça, des mecs qui ont l'habitude de cette course, et je suis pas sûr qu'on puisse tout bouleverser d'un coup. Je vois bien Van Der Poel attaquer, mais pas être aussi tranchant qu'il a pu l'être l'an passé, où vraiment, il est, l'année dernière, il est sur une année formidable, Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il en aura encore des comme ça? Alors, il est jeune, hein, mais on sait jamais. On a déjà vu des mecs gagner tout ce qu'ils avaient prévu une année, puis l'année suivante, avoir une année un peu plus compliquée, et puis voilà. Et du coup, j'imagine assez aisément plusieurs mecs capables de les suivre, parce que mine de rien, le Poggio, ça reste le Poggio. On se rappelle qu'il y a deux ans, on disait oh là là, Caleb Ewan, il gagnera jamais Milan-San Remo, beaucoup trop dur pour lui. Il l'a mis comme course de référence. Puis il y a deux ans, Caleb Ewan dans le Poggio, il est devant tout le long, hein, et il se fait pas décrocher. Donc ok, c'est pas Pogacar ou Van Der Poel Prime qui attaque, mais on se rend bien compte que quand t'es un puncher, t'as aussi intérêt à être à 2000% dans le Poggio si tu veux avoir la chance de décrocher des sprinteurs qui passent bien les bosses et qui eux se disent de toute façon cette course il y a 3 km où faut serrer les dents et puis après derrière c'est potentiellement une victoire sur un monument. Pour un sprinteur c'est de plus en plus difficile, donc faut pas le manquer. Donc je pars sur Milano Sprint, victoire en réglant un petit groupe de 5-6 là qui sont extirpés dans le Poggio. Et du coup je veux bien votre avis sur potentiellement donc une deuxième personne qui un second couteau, un deuxième rideau, un deux étoiles comme on les appelle chez nous, et du coup le scénario potentiel dans lequel il pourrait aller s'imposer.
Bah moi j'ai envie de croire. Tu voulais dire quelque chose, Thierry?
Vas-y, j'irai après.
Ok. Du coup moi j'ai bien envie de croire à cette carte Moric. Je trouve que Moric il a fait un bon début de saison, il fait 5e sur les Strade Bianche. Il était vraiment pas mal et en fait je me dis bah si la course n'est pas assez dure, que Pogacar rate son attaque, en fait pour moi si Pogacar part pendant la Cipressa en mettant son attaque, bah derrière ça peut forcément rouler un peu plus soft et je me dis bah un Moric qui attaque pas forcément dans la Cipressa, qui revient sur Pogacar avec le peloton, qui derrière arrive à suivre le rythme dans la montée du Poggio, bah en vrai pourquoi pas passer une attaque en haut de la montée et aller faire la descente tout seul. C'est un scénario que j'ai envie de croire, surtout que Moric, bah, en vrai, moi, il m'a pas mal déçu l'année dernière, Moric, malheureusement. Mais cette année, je sais pas, j'ai envie d'y croire un petit peu. Je me dis, tu vois, peut-être il peut essayer de jouer son coup, essayer de tenter sa chance. Et sa cinquième place sur l'Estrade me donne envie d'un petit peu plus d'y croire. Je crois pas du tout, enfin, pas trop en tout cas, un scénario où ça se finirait au sprint. Donc je vois bien Moric passer son attaque en haut de la descente, en haut de la montée ou avant la descente comme vous préférez. Et je crois un petit peu plus quand même à Moric qu'en Pidcock. Pidcock, même s'il fait 4e d'Estrade Bianche, je sais pas, je le trouve un peu léger quand même. Je pense qu'il a un petit peu moins de force que Moric en ce début de saison. Donc voilà, je crois plus en la carte Moric qu'en la carte Pidcock pour une attaque en haut de la montée. Donc voilà, moi j'aurais bien envie de dire un petit Matej Moric.
Ouais, pourquoi pas, ça joue. Moi j'ai envie de dire Christophe Laporte, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ouais, Christophe Laporte au sprint, parce que je pense que ça va être compliqué pour lui, mais Christophe Laporte, c'est un coureur que je vois bien passer dans les 10 premiers, là peut-être en second rideau au sommet de du Poggio. Et puis ensuite, s'il y a regroupement en bas du Poggio, c'est clairement le type de coureur que, avec sa puissance sur le plat, que je vois passer que je vois placer un démarrage, peut-être, tu vois, sous la flamme rouge. Derrière, ça se regarde parce que personne ne veut faire l'effort et Christophe Laporte, tu lui laisses 3 mètres, c'est terminé. Il est quand même sur le plat, il est quand même très, très puissant. Donc voilà, je vois très bien Christophe Laporte pouvoir faire ce coup.
Est-ce qu'il y a potentiellement un troisième coureur duquel vous avez envie de parler, messieurs, ou est-ce que vous en avez déjà parlé dans les potentiels scénarios précédents?
Bah, j'ai bien envie de rajouter deux petits trucs sur Cosnefroid, qui réalise honnêtement une de ses meilleures saisons, un début de saison depuis 3 ou 4 ans. Alors certes, il y a une victoire sur le Tour des Alpes maritimes, mais en vrai... Je sais pas, j'ai envie un petit peu d'y croire. Il a aussi fait des Strade Bianche qui est pas trop mal. En fait, quand j'ai vu arriver 6e, je me suis dit, bah purée, ok, je m'attendais pas du tout à Cosnefroid dans ces Strade Bianche. Et puis, c'est souvent le coureur un peu teigneux qui va aller chercher la victoire au bout du bout. On se souvient de l'Amstel Gold Race contre Kwiatkowski. Donc en vrai, j'ai un petit peu envie d'y croire à Cosnefroid. S'il prend le bon wagon, bah en vrai, c'est pas le coureur dont tu vas te méfier, surtout les gros poissons qu'on pourrait avoir, parce que si Cosnefroid arrive à suivre, je pense qu'il y en a d'autres qui arriveront aussi, et ce ne sera pas lui le plus attendu. Donc voilà, Cosnefroid, sur un scénario un peu imprévu, sur un petit peu un coup stratégique, un petit coup de poker stratégique, bah en fait, Cosnefroid, pourquoi pas aller chercher sa petite carte lui aussi, sachant qu'il a un punch qui est assez correct, plutôt pas mal même. En descente ça peut jouer aussi, puis au sprint bah pourquoi pas, en fait en fonction du groupe qu'il y a, pourquoi pas. Donc non, Cosnefroid, je sais pas, j'ai envie un peu de le surveiller ce week-end.
Ouais, bah ça va être bien pour lui vu qu'il va déjà, selon Théo, il va gagner la Flèche Wallonne, donc c'est deux magnifiques victoires cette année. Non, ouais, t'as raison, Benoît Cosnefroy. Bah écoute, je sais pas, moi j'avais un peu abandonné ce coureur au bord de la route. Je trouvais que l'année dernière il a été quand même très décevant, et puis finalement il est revenu dans le jeu avec une belle sixième place là sur les sixième ou septième sur les stradés, donc pourquoi pas. Puis moi, il y a un dernier coureur dont j'ai envie de parler rapidement, c'est un mec qui est toujours présent qui est toujours présent sur Milan-San Remo et qui pourrait bénéficier du jeu d'équipe. C'est Søren Krogh Andersen, qui est chaque année là, ça fait 3 ans qu'il est dans le final. Il avait failli gagner en 2021, mais il avait emmené Jasper Stuyven. Enfin, il avait servi de poisson pilote dans les derniers mètres. L'année d'après, il avait aussi attaqué. Et puis même les dernières, hein, derrière les quatre qui étaient partis, il était en groupe de trois avec Pedersen et Moric. Donc c'est un coureur qui est toujours là sur Milan-San Remo. Et c'est typiquement un peu dans le même cas que Christophe Laporte, le mec qui pourrait contrer si derrière il y a regroupement dans le dernier kilomètre et le mec serait pas surveillé. Et puis derrière, il y aurait Van Der Poel et Philipsen pour bloquer un peu et partir s'envoler. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des mecs pour moi. C'est le scénario. Je passe pas trop loin dans le podio. Il y a regroupement en bas parce que ça s'entend pas ou parce qu'il y a personne qui se détache. Je reviens, je le contre. Et comme on avait vu avec Stuyven en 2021, et je vais m'imposer. Donc ces mecs-là, je les vois gagner si ça se passe comme ça.
Très bien, messieurs. Écoutez, moi, il y a un gars dont j'ai envie de parler. Alors, j'ai été déçu de sa saison l'an passé, parce qu'il y a 2 ans, il nous avait vraiment montré du très très beau. Il a été un peu moins au niveau l'année dernière. C'est Binyam Girmay. Voilà. Alors, on sait que quand les courses sont longues, il a du mal. Après, je reste persuadé que Milan-San Remo, c'est quand même une course qui lui correspond bien. On sait qu'il passe très bien les bosses. Alors, il fait pas un mauvais début de saison. On l'a vu sur le Tour Down Under faire des bonnes places. On l'a vu gagner la Coast Classic, Surf Coast Classic. On l'a vu sur Tirreno. Voilà. Alors, il a été disqualifié de certains sprints parce que en ce moment, voilà, le fait d'avoir gagné la Surf Coast Classic, ça lui a donné envie de faire des vagues à tous les sprints. Donc voilà. Il aurait peut-être dû rester un petit peu moins longtemps en Australie, l'ami Binyam, parce que clairement.
Super le jeu de mots, bravo.
Oui, je sais, merci.
On va finir cette émission en beauté.
On va glisser jusqu'à l'arrivée. Allez, hop, c'est terminé.
Oh là là.
Je m'arrête là.
Mais quand Marc.
Ouais. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner parce que le meilleur arrive. Non, mais en vrai, ouais, je sais pas. Je reste persuadé que ça peut être une course qui peut lui correspondre. En plus, vu qu'il arrive peut-être moins marqué que l'année précédente, ou alors il avait pas fait, je crois qu'il avait fait 25e ou 26e, je sais plus, sur Milan-San Remo. Voilà, je le vois bien l'année dernière, il a été un peu en dessous. Et cette année, il va peut-être nous faire du beau, l'ami Binyam Girmay. Et je me dis, il sera à suivre, en plus il sera leader, il aura l'équipe autour de lui. Je pense aussi à un coureur comme Tom Skuins, mais je pense que la présence de Pedersen et à la fois de Milan dans l'équipe vont faire qu'il va travailler trop avant et qu'il pourra pas nous montrer son meilleur. Et puis comme j'en ai parlé tout à l'heure aussi, l'ami Van Gils, que je vois bien, je le vois bien passer aussi, et peut-être qu'il sera un peu plus libre que d'autres. Donc voilà pour moi, messieurs. Peut-être qu'on s'arrête, ou encore quelque chose à rajouter, ou on s'arrête
non,
là.
Non, c'est bon, je pense que c'est pas mal, oui.
Eh bien, mesdames, messieurs.
Si Binyam Girmay, juste, pardon, il fait tomber tout le monde quelques mètres avant la ligne, comme il sait faire, effectivement. Il pourrait peut-être au moins lever les bras avant qu'on lui enlève sa victoire, mais donc pourquoi pas.
Je me dis sinon.
Messieurs, et ben en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez aller s'imposer ce samedi. Alors bien évidemment, qui dit course en Italie dit course le samedi, hein, ne vous faites pas avoir, notamment si vous n'êtes pas encore des gros réguliers et des gros aficionados du vélo. Donc qui vous voyez aller s'imposer, sur quel scénario? Est-ce qu'il y a des scénarios qu'on n'a pas vus et que vous voyez bien se passer, et peut-être des coureurs qu'on n'a pas forcément vus que vous voyez bien aller gagner vous aussi? Comme on l'a dit, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like sur la vidéo si vous êtes encore là, ça permettra qu'elle soit mieux référencée, puis ça nous permettra, comme on l'a dit, de glisser vers les 2000 abonnés, voilà, dans le plus grand calme, et ce sera formidable. Merci messieurs pour cette émission.
Bah avec grand plaisir.
Merci à toi pour cette belle animation, ce beau quiz et ces beaux jeux de mots.
On verra si on a le temps de se caler un petit live de débrief ce week-end, c'est pas sûr, mais hein, voilà. On verra si on peut voir ensemble qui a remporté, etc., etc. Comme on a pu le faire notamment sur Paris-Nice la semaine dernière. C'est vrai que les lives, c'est bien sympathique. En plus, vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre, donc c'est top. En attendant, n'oubliez pas, pensez à vous alimenter. La course va être longue et nous ne sommes pas encore totalement au printemps, donc il continue à faire froid. La fringue alguette, vous le savez. En attendant, bonne soirée, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et cette fois-ci, encore plus que d'habitude, ciao, ciao.
Ciao les copains.
À plus, des bisous. Et allez, Romain Bardet.